France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Apollon, le dieu de Delphes, pendant des siècles a délivré des oracles aux Grecs et aux non-Grecs, qui venaient en foule dans son temple. Ce dieu était rusé, fourbe. Ses oracles étaient censés révéler la vérité à celles et ceux qui l'interrogeaient. Mais ils étaient souvent tordus, biaisés, peu clairs. C'est pour cela qu'on appelait cet Apollon le dieu oblique, l'Oxias. Apollon disait toujours le vrai. Il ne mentait pas, mais il aimait surprendre, répondre à côté de la question qu'on lui posait. C'était sa manière à lui de montrer aux consultants que les mortels ne savent pas de quoi il parle.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Ainsi, le jeune Œdipe, qu'un camarade de jeu venait de traiter de bâtard, s'est précipité à Delphes pour demander aux dieux si les parents qui l'ont élevé sont bien ses vrais parents. En fait, ils étaient ses parents adoptifs. Apollon ne lui a pas répondu. Il lui a dit qu'il allait tuer son père et coucher avec sa mère. C'est bien ce qui a eu lieu. Apollon ne se trompe jamais. Mais le dieu a omis de lui préciser qui était son père et qui était sa mère. Œdipe a paniqué. Il a cru qu'Apollon écartait tout simplement sa question, ses doutes sur ses origines, pour lui annoncer les choses terribles qu'il ferait avec ses parents. Père et mère ne pouvaient être, selon Œdipe, que les êtres avec qui il avait vécu. La terreur a effacé l'interrogation sur l'identité de ses pères et mères. Œdipe voulut éviter à tout prix ses crimes. Mais sans le savoir, en croyant tout faire pour échapper au destin prédit par Apollon, il a finalement réalisé la prédiction du dieu. Il a tué son père et épousé sa mère, qu'il ne pouvait pas reconnaître. Une autre fois, un roi très riche et très fier de son pouvoir s'est fait piéger par l'oracle d'Apollon. C'est Crésus, roi de Lydie en Asie, dont nous avons parlé la semaine dernière. Il était à la tête d'un grand royaume et il possédait d'immenses trésors. Ce roi avait peur. L'empire voisin, l'empire perse, était en pleine expansion et menaçait son royaume. Crésus voulait savoir s'il pouvait, pour se défendre, attaquer cet empire. Il était très perplexe. L'armée perse était plus que dangereuse. Crésus a demandé à l'oracle d'Apollon s'il devait faire la guerre aux Perses. L'oracle lui a répondu.
Il lui prédit que s'il faisait la guerre aux Perses, il détruirait un grand empire.
Crésus, qui tenait tellement à garder ce qu'il avait, richesse et pouvoir, pense que la réponse du dieu est positive. Il pense qu'Apollon l'incite à passer à l'attaque. Il est content, bêtement. Il ne devine pas que l'empire qu'il va détruire est le sien. Pour être encore plus rassuré, il demande à Apollon combien de temps sa royauté va durer. Apollon va lui jouer un autre tour. Il lui répond par une énigme.
Eh bien, quand un mulet sera roi chez les Médèses, alors, ô Lydien aux pieds délicats, ne reste pas. Fuis le long du fleuve Hélos aux mille cailloux, sans avoir honte d'être lâche.
Les Mèdes étaient un peuple voisin, au nord de l'Irak, que les Perses venaient de soumettre. Crésus est tout content, encore une fois. Ce n'est pas demain la veille, pense-t-il, qu'un mulet sera roi. Le pauvre n'avait pas compris qu'Apollon l'Oxias, le dieu tordu, jouait avec le langage. Mulet ne désignait pas un animal. C'était une métaphore, comme on dit. Mulet, dans la bouche d'Apollon, ne voulait pas dire un mulet, mais un être hybride, mélangé, comme le mulet est à la fois âne et cheval. Or, le roi des Perses, Cyrus, était un hybride. Sa mère était une princesse mède et son père un Perse. Le mulet, c'était donc lui. Et il était devenu roi. Cyrus, le roi perse, a pris le pouvoir chez les Mèdes. Pensant que les dieux le soutenaient, le roi Crésus attaque les Perses. Il se fait battre. Sa ville est prise, pillée, il perd tout. Il a effectivement détruit un grand empire, le sien. L'Apollon de Delphes, le dieu oblique, joue avec le langage. ou bien il emploie un mot pour un autre, mulet, pour un roi à l'origine double, ou bien il ne dit pas tout. Quand il dit « tu détruiras un grand empire », il ne dit pas de quel empire il parle. Crésus, aveuglé par ses désirs et sa toute-puissance, comme d'autres seigneurs du monde, n'entend que ce qu'il veut entendre. Il est une tête de mule et pense que cet empire est celui de l'ennemi, or ce sera le sien. Il n'entend pas qu'Apollon dit une chose, la perte d'un empire, sans la dire vraiment. Il fallait non pas se précipiter et agir, mais s'arrêter et écouter le langage du dieu et se demander ce qu'il dit et cache à la fois. Il fallait se rendre compte que le langage ne dit pas directement, simplement les choses, mais qu'il les dit de biais, en taisant, tout autant qu'en affirmant. Il fallait savoir entendre les mots et écouter entre les mots. Apollon était un grand virtuose du langage, de ses tours et détours, de ses silences.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Héraclite, le philosophe grec, a su dire ce qu'il fallait entendre dans les oracles d'Apollon. Il faut écouter les mots et ne pas s'attendre à ce que le dieu dise clairement une chose, ni croire qu'il a envie de dissimuler ce qu'il sait. Le dieu lance des mots. ces mots pointent vers la réalité, ils l'indiquent. Mais reste à trouver comment.
Le maître à qui appartient l'oracle, celui de Delphes, ni ne dit ni ne cache. Il indique.
Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand Apollon, le dieu des oracles, se met à cacher, à dissimuler, à mentir franchement, à dire le faux et non plus le vrai? Quand il se met à cacher volontairement la réalité de la manière la plus éhontée, hypocrite, mensongère. Cela peut arriver si cet événement le concerne directement et qu'il en a honte. Apollon peut alors mentir sans aucun scrupule. Il sait que son interlocuteur le croira, car il aura parlé en dieu de Delphes, en dieu des oracles. Mais est-ce qu'il ne va pas se faire piéger lui aussi? Est-ce que la vérité ne va pas aussi apparaître malgré lui? Cela lui est arrivé au moins une fois. Encore une histoire d'amour furtif et d'enfant caché. Amour n'est pas vraiment le mot. Comme d'habitude, le dieu s'est imposé à une jeune fille. C'est l'histoire d'Apollon et d'une jeune princesse athénienne, la jeune Créoussa, et de leur fils longtemps caché, Ion, Ione. Ce n'est pas une histoire très connue, moins connue que celle d'Oedipe ou d'autres fils d'un dieu et d'une mortelle, comme Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène, ou Dionysos, enfant de Zeus et de l'humaine sémêlée. Cet Ion nous est moins familier. Il n'est pas devenu dieu comme Dionysos et Héraclès. Mais il a eu pour la Grèce une importance énorme. Ion, a donné son nom à tous les Grecs qu'on appelle les Ioniens. Grecs installés sur les côtes de l'Asie mineure, Grecs de la mer, de très nombreuses îles de la mer Égée, Grecs de la Grèce continentale autour d'Athènes. Il a été un grand fondateur, un artisan de la gloire de la ville où il a été conçu par la jeune Créoussa et par Apollon, Athènes. Mais à l'origine de cette gloire, il y a un truc, un mensonge d'Apollon. La grandeur des Grecs ioniens, la grandeur d'Athènes commence par une tromperie, une entourloupe. Nous pouvons lire cette histoire dans une œuvre de théâtre extraordinaire. Les aventures d'Apollon, de Créoussa et de leur enfant caché, Ion, ont été reprises par l'étonnant poète Euripide dans une tragédie qui porte le nom de l'enfant, Ion.
Claire Nancy, helléniste.
Ce qui est tout à fait étonnant dans cette pièce, qui devait être donc une pièce patriotique à la gloire d'Ion pour montrer la grandeur d'Ion, est en fait, chez Euripide lui-même, une pièce qui est en fait une pièce sur la maternité et sur le fait que Ion, à la différence du citoyen athénien qui est défini par le nom de son père et au fond dont la mère importe peu puisque tous les citoyens sont frères et qu'ils ont la terre pour mère commune, Ion, au contraire, est constamment préoccupé par le souci de sa mère, la recherche de sa mère, et que cette pièce est en fait une question de maternité.
Cette pièce est merveilleuse par ses surprises, ses rebondissements, avec une mère qui recherche son enfant et qui s'apprête à empoisonner celui qu'elle ne sait pas être son fils. Une pièce qui n'hésite pas à nous montrer un Apollon fourbe, menteur, et pris la main dans le sac. Tout commence au petit jour, avant que le soleil ne se lève, dans la première clarté du matin qu'on appelle en Provence le Tralus. À Delphes, devant le temple d'Apollon, Hermès, frère d'Apollon, parle. Hermès est le dieu furtif des mauvais coups, des affaires louches. Il annonce une grande journée, pleine de surprises. D'abord, il se présente. Puis, il raconte ce qui s'est passé autrefois entre Apollon et la jeune Créoussa, la princesse athénienne. Sur une pente de l'acropole d'Athènes, le dieu a abusé de la princesse. Je reprends la traduction écrite par Marie Delcourt. C'est le tout début du drame.
Atlas, dont la nuque de bronze s'use à porter le ciel, l'antique demeure des dieux, Atlas, d'une déesse, eut une fille. C'était Maïa, qui me conçut des œuvres du grand Zeus, moi, Hermès, serviteur des immortels. Or, me voici venu à Delphes, nombril du monde, trône de Phoïbos, qui chaque jour y chante ses oracles, révélant aux mortels ce qui est et ce qui sera. Il est en Grèce une cité illustre qui porte le nom de Pallas Lance d'Or.
Hermès veut parler d'Athènes, la ville de la déesse Pallas Athéna, La lance dorée de sa grande statue sur l'acropole se voyait depuis loin sur la mer.
Apollon y surprit la fille du roi, Créoussa, et la força de subir son étreinte. Au flanc de la colline d'Athéna, sous les rochers battus du vent du nord, que les gens de l'Attique appellent les Hautes Roches.
La jeune fille devient enceinte du dieu. Elle accouche en secret. Elle abandonne son fils dans la grotte même où le dieu l'avait prise. Cet abandon est pour elle une mise à mort. Elle pense que l'enfant va mourir. Néanmoins, elle respecte le rite de la naissance. Elle entoure l'enfant d'ornements qui reprennent la coutume athénienne, non pas comme signe pour une éventuelle reconnaissance future, mais comme symbole de sa haute origine.
À l'insu de son père, ainsi que le voulait le dieu, elle porta le fardeau de son ventre. Le temps venu, délivrée dans sa chambre d'un fils, Créoussa l'emporta vers la même caverne où le dieu s'était uni à elle. Pour exposer le nouveau-né, sûre qu'il y mourrait, elle le coucha dans un panier rond, bien fermé, restant fidèle à l'usage ancestral, au souvenir du fils de la terre que la fille de Zeus remit en garde à deux serpents.
Ce fils de la terre s'appelait Erichthonios, ce qui signifie le trait terrien. Il était né de la semence du dieu Héphaïstos, qui a fécondé la terre athénienne. En fait, c'est toute une histoire. Héphaïstos voulait forcer la déesse Athéna, la toujours vierge. La déesse a détourné sa semence qui tomba par terre. Et c'est ainsi que la terre fut fécondée. Athéna, la fille de Zeus, a protégé l'enfant qui est né de cette union ratée. Elle a mis le bébé, enfant de la terre, dans une corbeille, sous la garde de deux serpents.
C'est depuis lors que les descendants d'Érecté ont coutume de protéger de serpents d'or le cou des enfants qu'ils nourrissent. Tous ces bijoux de jeune fille, Créoussa les joignit à son fils, ainsi qu'une offrande funèbre, et puis elle l'abandonna.
À peine né, l'enfant de la princesse Créoussa est voué à la mort, alors qu'il est de naissance prodigieuse. Fils d'un père divin, Apollon, et d'une femme très noble, Créoussa est en effet la fille du roi d'Athènes. Son nom, Créoussa, signifie la régnante, celle qui a le pouvoir. Elle en aura beaucoup dans la pièce. Apollon n'a aucune envie que sa paternité furtive se sache. Il en a honte, comme souvent les dieux, qui adorent s'unir à des mortels, mais qui ressentent après leur succès un sentiment de grande gêne. En aimant des mortels, ils ne respectent pas leur rang, ils déchoient. La déesse du désir amoureux, Aphrodite, qui suscite ces unions, n'arrêtait pas de se moquer des dieux quand, penauds, ils revenaient de leur conquête. Très souvent, elle rit de Zeus, remontant chez lui dans l'Olympe, après une aventure terrestre. Zeus en a eu assez de ses moqueries. Il a rendu Aphrodite amoureuse d'un mortel pour qu'elle arrête de se moquer des dieux.
À elle aussi, Zeus mit dans le cœur le doux désir de s'unir à un homme mortel, afin qu'au plus vite, elle ne reste pas intacte de tout accouplement humain. Afin qu'elle ne se vante plus devant tous les dieux en riant de plaisir, elle, Aphrodite, la déesse des sourires, d'avoir mêlé des dieux et des femmes mortelles qui, pour les immortels, ont mis au monde des fils voués à la mort, ou d'avoir mêlé des déesses et des humains.
Zeus rendit Aphrodite amoureuse du plus bel homme du jour, le bel Anchise. Et Aphrodite a eu honte à son tour. Elle a demandé à cette Anchise de ne jamais dire qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Puis, elle a décidé de ne plus favoriser les unions entre dieux et humains. C'est pour cela qu'il n'y a plus de demi-dieux parmi nous, d'enfants mixtes, nés de dieux ou de déesses et d'êtres mortels. Cette époque est définitivement close à cause de la honte d'Aphrodite. Apollon, tout honteux qu'il fût, se préoccupe de l'avenir de ce nouveau-né. Il demande à son petit frère Hermès, le spécialiste des missions secrètes, d'aller chercher l'enfant dans sa caverne à Athènes, de l'apporter pendant la nuit à Delphes et de le déposer devant son temple, en prenant bien soin de laisser le panier entrouvert pour qu'on voie l'enfant. Hermès fait ce que son frère lui demande. Le matin suivant, la prêtresse d'Apollon, la Pythie, arrive à son travail. Elle découvre le panier, l'enfant. Elle est d'abord choquée. Cet enfant exposé est le signe d'une souillure, d'un amour impur. puis la prêtresse s'attendrit.
Or, comme le soleil ramenait ses chevaux pour la course du jour, la prophétesse, entrant dans la chapelle oraculaire, y arrêta les yeux, se demandant quelle fille de Delphes aurait osé jeter dans la maison du Dieu le fruit secret de ses amours. Déjà, elle songeait à le porter hors de l'enceinte, quand la pitié la détourna d'un acte si cruel, le Dieu ne voulant pas que de sa maison, son fils, fût chassé.
La pitié adopte l'enfant, elle l'élève. L'enfant a grandi, il devient l'un des serviteurs du sanctuaire.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie, cueillir raisin de Corinthe, épêche rubis, marcher, courir, nous éreinte, là restons assis au milieu du labyrinthe, sans chercher d'issue, tu te promènes, seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre, tu te celle dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut,
France Inter.
Les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Hermès dit qu'il est revenu à Delphes parce que la journée qui commence va être exceptionnelle. Il veut y assister et savoir comment toute cette histoire va finir. La mère de cet enfant, Créusa, va arriver à Delphes, dit-il. Elle sera confrontée, sans le savoir, à son fils, qui de son côté n'a aucune idée de qui est sa mère. Depuis, Créusa s'est mariée. Elle a épousé un dénommé Xoutos. Ce nom veut dire « le brillant », à la chevelure fauve. Il est un étranger, un non-athénien, mais il est accueilli à Athènes, car il a fortement aidé les Athéniens lors d'une guerre. Il a sauvé la ville. Le roi d'Athènes lui a accordé la main de sa fille, Créusa. Le couple n'arrive pas à avoir d'enfants et s'en lamente. Ils ont décidé de consulter Apollon. Le dieu a une idée qui devrait, selon lui, régler tous les problèmes. Il se sent quand même un peu honteux vis-à-vis de Créusa. Et il voudrait régler la question de la stérilité du couple. En fait, c'est lui qui a tout combiné, qui a rendu le couple stérile et l'a poussé à venir consulter l'oracle à Delphes. Apollon a décidé de mentir, sans aucun scrupule.
L'Oxias, vers ce but, a conduit leur destin. Moins oublieux qu'il n'y paraît. Quand Xoutos passera le seuil oraculaire, il s'entendra donner, comme étant né de lui, le fils de l'Oxias, afin que, ramené au foyer de sa mère, l'enfant soit reconnu par elle. Ainsi, tout en gardant le secret de ses noces, le dieu restaurera celui qui en acquit.
Pour une fois, l'oracle d'Apollon sera simple, pas ambigu, direct. Xoutos, le stérile, apprendra qu'il a en réalité un fils, qui est déjà un jeune homme. Mais ce sera faux. Créusa retrouvera son fils, mais ce qu'elle a subi du dieu sera à jamais caché. On est en pleine illusion. Mais est-ce que ça va se passer comme Apollon l'a prévu, avec son mensonge ? Justement pas. Hermès a fini son récit. Il se cache derrière les feuilles d'un laurier pour voir la suite. Le jour se lève vraiment. Le soleil monte dans le ciel avec ses chevaux. Ion, le jeune fils secret de Créusa et l'Apollon, apparaît. Il commence sa journée de travail en balayant l'entrée du temple avec une branche de laurier, la plante fétiche d'Apollon. Il chasse avec son arc les oiseaux qui viennent picorer les offrandes des pèlerins. Le jeune homme accueille un groupe de femmes venues d'Athènes qui s'extasient devant la beauté des sculptures du temple. Ce sont les servantes de Créusa. Elles vont faire le cœur de cette tragédie. Apparaît aussi Créusa. La mère et le fils sont face à face, sans le savoir. Ion est frappé par l'air noble de Créusa, par sa prestance et aussi par sa tristesse. Elle est couverte de larmes.
Tu es de haute race et la nature de ton âme se marque dans tes traits de noble dame. Rien qu'à voir l'apparence d'un homme, on reconnaît souvent celui qui est de bonne souche. Mais quoi, que tu m'étonnes. Tu as fermé les yeux, des larmes ont coulé sur ton noble visage, rien qu'à voir devant toi le saint oracle d'Apollon. Pourquoi ce vif chagrin qui te saisit? Quand tous les autres, en découvrant le sanctuaire, ont la joie dans les yeux, les tiens se mettent à pleurer.
La mère et le fils ne se sont évidemment pas reconnus, ils ne se connaissaient pas. Mais tout ou presque est dit. Créusa tente de justifier ses pleurs en parlant de manière générale. Elle dit seulement qu'elle a subi de la part d'un puissant une injustice telle qu'en subissent souvent les femmes. En quelques phrases, Créusa introduit une dissonance dans l'atmosphère sacrée, pieuse du sanctuaire d'Apollon.
Il faut que ton cœur étranger ne soit pas insensible. Pour que mes larmes te trouvent si surpris, c'est qu'en voyant le palais d'Apollon, ma pensée a remonté le chemin d'un ancien souvenir. Elle était dans Athènes, même si mon corps est ici. Ah, que les femmes sont malheureuses! Où s'arrête l'audace des dieux? Mais quoi? À quel tribunal demander justice quand on meurt de l'iniquité de ceux qui nous dominent?
Ion lui demande qui elle est. Quand il apprend qu'elle est Créusa, la fille du roi d'Athènes qui s'appelle Érectée, Ion l'interroge sur l'histoire de cette ville. Il n'y est jamais allé. Il a entendu des récits, vu des images, et veut savoir.
Je suis Créusa, fille d'Érectée. Athènes est ma patrie.
La cité est illustre et haute, la lignée. Je t'en loue, noble dame.
Tout mon bonheur tient dans ces mots étrangers. Il ne va pas au-delà.
Par les dieux, dis-moi s'il est vrai le conte qu'on récite.
Que voudrais-tu savoir ?
Le père de ton père est bien né du sol même?
Erichthonios? Oui, certes. Mais que me sert le miracle de cette origine?
Athéna le reçut au sortir de la terre?
Dans ses bras de vierge, sans l'avoir mis au monde.
Et le donna, comme on le voit dans les images?
Aux filles de Kécrops, pour qu'elles le gardent, avec défense de le voir.
Mais elles ouvrirent, dit-on, la corbeille de la déesse.
Et elles en moururent. Leur sang coula sur les rochers.
En quelques mots, Créusa raconte l'histoire des tout débuts de la ville d'Athènes. C'est le mythe d'origine de la ville, qui commence avec la naissance d'Erichthonios, le premier Athénien. Il est né de la semence d'Héphaïstos, qui a fécondé la terre athénienne. Les Athéniens étaient très fiers de cette origine indigène, autochtone de leurs ancêtres. Ils pouvaient dire qu'ils étaient issus de leur terre elle-même, qu'ils ne venaient pas d'ailleurs comme des étrangers. Ils étaient de chez eux. Cette naissance, à partir de leur sol, leur garantissait la liberté. Ils ne dépendaient d'aucune puissance extérieure. Mais les Athéniens, avec ce mythe, avaient aussi le sens de l'humour. Cette légende de l'autochtonie athénienne, telle que les Athéniens la racontaient eux-mêmes, était bizarre. Il y a beaucoup d'ironie dans ce mythe d'origine. Il a fallu qu'un dieu venu de loin, Héphaïstos, court vite sur une longue distance, à la poursuite de la déesse Athéna, qu'il désirait et qu'il ne voulait absolument pas de lui. Il a fallu que la semence d'Héphaïstos s'envole, sans qu'il le veuille, et tombe par terre, là, sur la terre athénienne. C'est plutôt comique, comme origine. La terre fécondée fait naître un enfant, Erichthonios, le terrestre. Athéna, bienveillante, recueille le bébé et le cache dans une corbeille que protègent deux serpents. Elle confie la corbeille à des Athéniennes, avec interdiction absolue de l'ouvrir. Malgré l'interdiction, ses filles ouvrent la corbeille, voient les serpents et sont tellement effrayées qu'elles vont se précipiter du haut d'une falaise de l'Acropole. Elles meurent. L'autochtonie n'est pas sans danger pour des jeunes filles quand l'enfant est né sans l'intervention d'aucune femme.
Nicole Laureau, helléniste.
Lorsque les orateurs civiques racontent l'autochtonie, ils en donnent une version laïcisée et une version dans laquelle, étrangement, tout se passe comme si c'était les Athéniens, tous, la collectivité des Athéniens, qui, aux origines, étaient nés de la terre. Et naître de la terre, ils l'interprètent immédiatement sur le mode de la noblesse. Et bien évidemment, c'est une occasion d'opposer les Athéniens aux autres, c'est-à-dire aux citoyens des autres cités qui sont supposés être venus de n'importe où et ne pas habiter légitimement leur propre sol.
Ion continue son interrogatoire avec une seconde histoire qui n'est pas moins incroyable et fatale à nouveau pour des jeunes filles. C'est l'histoire du père de Creusa, Érecté, roi d'Athènes, fils de cet Erichthonios né de la terre. Érecté, qui est mort, a dû, avant de mourir, commettre un acte effrayant, tuer ses propres filles.
Je sais une autre histoire encore. Dis-moi si elle est vraie.
Que vas-tu encore demander ? J'ai le loisir de te répondre.
Que ton père Érecté a immolé tes sœurs.
Pour sauver son pays, il osa sacrifier ses filles.
Comment t'épargna-t-il, toi toute seule ?
Je venais de naître. J'étais dans les bras de ma mère.
Et vraiment le sol se fendit pour engloutir ton père ?
D'un coup de son trident, Poséidon le précipita.
Ion et Creusa font seulement allusion à cette histoire. Ils ne la développent pas, tant elle était célèbre. Érecté, le roi d'Athènes, faisait la guerre contre un roi voisin. Ce roi ennemi n'était pas n'importe qui. Il était le fils de Poséidon, le très puissant dieu de la mer. Érecté a peur. Il consulte l'oracle d'Apollon à Delphes. Apollon lui fait une révélation terrible. Érecté ne gagnera la guerre que s'il sacrifie une de ses filles. Le roi se voit obligé d'accepter. Une de ses filles est immolée. Mais ce que le roi n'avait pas prévu, c'est qu'il perdrait aussi deux autres filles. Les trois filles aînées d'Érecté, Creusa étant encore toute petite, étaient très liées entre elles. Elles avaient prêté un serment solennel. Si l'une d'entre elles devait mourir, les deux autres s'engageaient à mourir aussi. Quand elles apprennent le sacrifice de leur sœur, les deux survivantes se suicident sur l'Acropole. Grâce au sacrifice de sa fille, le roi gagne sa guerre. Mais cela ne règle rien. Pendant la guerre, le roi victorieux Érecté a tué le chef des ennemis, qui était un fils de Poséidon. Le dieu est furieux. Poséidon venge son fils en donnant un grand coup de trident devant Érecté. La terre s'ouvre. Érecté est englouti et disparaît à jamais. Le terrien est repris par sa terre. Il meurt, sans fils pour lui succéder. Le dieu de la mer a mis à mal une lignée royale qui se voulait née de la terre. La ville d'Athènes est menacée par Poséidon, toujours prêt à frapper avec son trident. Athènes devra traiter avec lui pour qu'il arrête sa colère. Au terme d'un accord de paix, Poséidon sera inclus dans les cultes de la cité. L'origine terrestre ne suffit donc pas. Il faudra aussi être marin et accepter l'ouverture infinie sur le monde qu'est la mer. C'est comme cela qu'Athènes deviendra puissante, en étendant son pouvoir sur la mer, sur les îles. Cette histoire d'enfants cachés, de filles mortes, de rois sans héritier, tués par le dieu de la mer et engloutis par la terre, n'est pas seulement une histoire tordue de famille. Le mythe que reprend Euripide dans sa pièce est plein d'une réflexion sur ce que c'est l'origine, l'identité d'origine. Quand on se dit natif de sa propre terre, bien de chez soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mythe s'interroge. Euripide mettra cette interrogation au cœur même de sa pièce Ion. On le verra. Toute l'action du drame découlera de cette question. Un héros fondateur peut naître de la terre, soit, comme Erichthonios, sorti du sol. C'est l'origine absolue, la preuve de l'indépendance totale d'Athènes, de son origine pure, sans apport étranger. Mais après, que se passe-t-il avec la génération d'après. Il faut bien des femmes, et non la terre. Il faut des unions normales, humaines ou divines, pour que la lignée issue de la terre continue. Or là, tout peut arriver. Naissance secrète, naissance de fille et non de garçon, mort, suicide. Le temps des surprises, des aventures commence. Le sol, éternel, immuable, que l'on revendique, le sang de la lignée, que l'on veut perpétuer par des unions, ne vont pas nécessairement ensemble. On ne le sait que trop bien. Droit du sol et droit du sang ne s'accordent pas. Certains le croient, et cela débouche souvent sur des guerres. Apollon va s'en mêler, en mentant, en trompant. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour que la cité d'Athènes, partagée entre sa fascination pour son origine terrienne et les surprises que réserve la succession chaotique des générations, continue à tenir. Il faudra un mensonge éhonté du dieu Apollon pour que le mythe d'Athènes de l'autochtonie tienne la route. Comment va faire le dieu? Va-t-il réussir à embrouiller tout le monde? Ce sera notre question la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Cette émission a été réalisée par Maria Pasquet. La prise de son a été assurée par Mélissa Etroit. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. Bonne journée sur France Inter.